Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Je ne sais pas si vous avez entendu notre cardinal Marc Ouellet. Selon lui, il disait ça ces jours-ci, il devrait y avoir plus de femmes qui s'impliquent dans la formation des prêtres. Comme ça, c'est surtout la raison pour laquelle il dit ça qui est surprenante. C'est qu'il dit ça permettrait de combattre le phénomène de pédophilie dans l'Église. Je trouvais que c'était quand même pas mince de dire ça comme ça. T'sais, en bronchot des femmes, il y aura moins de pédos. Dans l'Église. Hii. Bon, j'imagine qu'il a réfléchi à ça avant de le dire. C'est une déclaration, effectivement, qu'il a faite à l'approche de cette conférence en Pologne et qui suscite évidemment beaucoup de réactions. Plus de femmes pour la formation des prêtres. Vous en pensez quoi, vous? Vous savez que jusqu'à maintenant, il n'y en a pas de femmes prêtres, là, à moins d'être excommuniées. Ça a été le cas, d'ailleurs, d'une Québécoise qui habite à Sutton et qui a été ordonnée prêtre chez les Anglicans de mémoire, mais qui a été excommuniée par l'Église catholique parce que l'Église catholique ne permet pas ça. Alors, tu sais, 2018, allô, arrive en ville, ben oui, faudrait le dire, à l'Église catho. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est à peu près temps qu'on ait des femmes prêtres dans l'Église catholique? Peut-être que ça ramènerait du monde dans les églises. Alain Pronkine est notre chroniqueur des affaires religieuses.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Alain. Solange Lefebvre est titulaire de la chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. Solange, merci d'être là.
Merci Isabelle.
Des femmes prêtres, enfin Solange, qu'est-ce que t'en penses?
Oh, je suis bien d'accord.
Hein? T'es à peu près temps?
Je l'ai jamais dit aussi clairement.
Qu'est-ce qu'on attend?
Mais cela dit, ce que j'apprécie dans le débat actuel, parce que c'est assez catastrophique hein, comme débat, c'est que depuis les années 60 que le débat public autour de la sexualité et la religion est viral. Hein, il y a eu la contraception, l'avortement, le mariage entre conjoints de même sexe. Là, pour une fois, c'est les leaders d'une des principales religions qui a parlé beaucoup de morale sexuelle qui se voient à leur tour attaquées pour leur moralité sexuelle. Ils s'interrogent sur eux-mêmes. Et ça va être très sain comme débat. C'est ce que les théologiens progressistes des universités publiques, surtout là, depuis les années 70, souhaitaient depuis longtemps. Des perspectives qui étaient rejetées du revers de la main par des prélats, par
mais en même temps, c'est une façon de dire on n'est tellement pas capable de gérer nos hommes prêtres qui ont un gros risque de pédophilie. Aussi bien mettre des femmes, au moins on se dit qu'elles toucheront pas les petits garçons. C'est quand même assez incroyable, Alain Pronkine, d'en arriver à cette conclusion. Non?
Oui, surtout quand on regarde les études qu'il y a eu en Irlande, parce qu'en Irlande, il y a eu la fameuse commission Murphy puis la commission Ryan. Ils ont même étudié du côté des couvents et ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup d'agressions aussi de la part des religieuses envers les étudiantes. Je tairai ce que l'on en dit, mais il y a eu beaucoup de cas, c'est vraiment de la cruauté carrément mentale. L'autre chose, au niveau, faudrait peut-être, parce que le cardinal Ouellet dit qu'il faudrait peut-être qu'il y ait plus de femmes qui s'occupent de la formation des prêtres. J'ai regardé rapidement.
Ça veut pas dire des femmes prêtres, ça.
Non.
Ça veut dire qu'ils s'occupent de la formation des prêtres.
Et j'ai regardé rapidement au séminaire de Montréal, le corps professoral, et j'ai constaté qu'il y avait 28 profs et le tiers étaient des femmes. Donc, il y a déjà des femmes au séminaire de Montréal qui donnent des formations aux prêtres.
L'autre, mais qui sont quoi? Qui sont des religieuses?
Il y a une religieuse.
Il y a des laïcs,
et l'autre, c'est des laïcs. L'autre difficulté qu'il y a, on va parler d'un petit débat, et Solange pourra en parler des heures parce qu'elle connaît ce côté-là, au niveau du diaconat.
Qui sont pas. Mais qu'est-ce que c'est, le diaconat?
C'est quelque chose où tu n'es pas réellement un prêtre et tu es plus qu'un laïc. Parce que souvent, les diacres sont des personnes qui veulent devenir prêtres souvent. Et les gens, comme l'exemple le plus classique, tu es un homme marié, tu deviens diacre. Lorsque ton épouse décède, ben là, tu peux devenir prêtre. Et on s'est toujours posé la question, est-ce que les femmes peuvent être diacres?
En fait, le diaconat, c'est l'étape avant de devenir prêtre.
Okay.
L'étape finale. Alors, il peut y avoir des diacres mariés qui ne deviennent jamais prêtres. Mais c'est seulement des hommes. Et pourtant, dans le Nouveau Testament, bibliquement, il y avait des femmes diaconesses.
Oui.
C'est sûr qu'on va arriver là avant si on y arrive.
Ah, mais ça commence. On a commencé
à
dire...
Il ne faut pas reproduire le même type de pouvoir. Non. C'est ça le problème aussi, là.
Mais c'est un bon point, ça.
Oui. Et on va tenter... Le Vatican a commencé une étude à savoir est-ce qu'il pourrait y avoir, théoriquement, ou est-ce qu'il y a eu dans le passé des femmes diacres.
Ouais.
Mais ça, c'est juste pour voir comment l'Église est loin, mais vraiment loin d'avoir des femmes prêtres.
Ouais.
Mais rappelons à nos auditeurs, chez les Anglicans, il y a des femmes prêtres, il y a des femmes évêques. Il y en a dans plusieurs dénominations protestantes, sinon l'ensemble, il y a déjà des femmes pasteurs partout.
Pourquoi les catholiques sont contre ça?
Ben, on peut rappeler, c'est difficile pour une religion changer à leur corps défendant, là. Quand les Anglicans ont voté en Angleterre pour que des femmes puissent être élues évêques, prêtres, ils ont perdu le tiers de leurs membres, y compris des femmes.
Ah, ouais.
Alors, le sacré résiste beaucoup au changement. Hein, c'est ça, il y a quelque chose de fondamental. Les mouvements religieux les plus dynamiques aux États-Unis sont des mouvements conservateurs. Puis moi, la grande énigme, Isabelle, c'est que Québécois, on est bien ouverts, là, bien intéressés à la religion, mais les églises les plus progressistes, telle l'Église unie du Canada, n'attire aucunement notre attention. On est toujours fixé sur ce qui nous résiste. Hein? Et puis, on est culturellement catholique aussi. C'est très profond, ces choses-là. Mais en tout cas, établir des changements
dans
une religion, c'est pas facile.
Ce que vous dites, tous les deux, c'est que finalement, on serait pas très ouvert à des femmes prêtres au Québec?
Ben, ça serait pas la première chose qui va survenir. Il y a d'autres. Ouais. Il y a les prêtres mariés d'abord. Il y a surtout aborder la sexualité de manière beaucoup plus explicite et intelligente dans les formations. On est loin du compte, hein. Il y a ou bien la chasteté ou bien le mariage dans la rhétorique.
Et on est-tu encore accroché que c'est péché avoir de relations sexuelles avant d'être marié?
Ben, officiellement, c'est le cas. Ouais.
Hey, mon Dieu.
Et juste pour...
Officieusement, c'est pastoralement, c'est accepté.
Et quand on regarde les nominations, les dames qui deviennent saintes une telle, quand on regarde leur curriculum vitae, la première chose qu'on voit apparaître, vierge. Quelle que soit la femme, on va dire, et on ne retrouve pas ça chez les hommes. On ne trouvera jamais un tel qui est devenu saint était vierge. Mais tu retrouves ça du côté de la femme. Et ça m'a toujours interpellé en disant, pourquoi c'est la première caractéristique qu'on met à une femme pour devenir sainte?
Ben, c'est pas c'est les gars qui ont fait ces règles-là, mon cher ami?
Oui, sans doute, c'est les gars qui ont fait ça.
Il y a eu des femmes mariées, quand même, qui ont été...
Oui, mais dans la grande majorité des cas, on va toujours mettre...
On ne traite pas la femme de la même manière, ça, c'est clair et net. L'avortement, c'est l'excommunication. L'abus sexuel, c'est le pardon. Hein?
Ouais,
c'est des hommes. On pardonne aux hommes, hein?
Ben oui, c'est sûr. Elle était tellement attirante. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas faite en bois. Hein?
Je pense qu'il y a eu...
Non, mais là, je parle de la pédophilie.
Mais oui, tout à fait. Non,
alors
non,
là, ils viennent de les mêmes choses, Solange.
J'imagine qu'ils se disent les mêmes choses.
Ils se disent...
Les abuseurs dans l'Église catholique.
Ben, c'est-à-dire que...
Doivent se trouver des circonstances atténuantes.
Ben, il reste qu'il faut avouer... Au Canada, on a clarifié les choses plus tôt dans l'Église catholique. Et puis, je vous rappelle que la société civile n'a pas été rapide sur la gâchette non plus. Hein. Mmh. La criminalisation claire des abus sexuels d'enfants, pas de mineurs. On parle de non-pubères, hein, de moins de, hein, qui ne sont pas passés par l'étape de la puberté. C'était pas fortement criminalisé au Québec avant les années 80. Dans d'autres sociétés, c'est pire. Alors, même les lois civiles n'ont pas évolué rapidement. Hein? Donc, ce qui se produit, c'est que dans plusieurs cultures, même si au Canada, par exemple, on a clarifié les choses dans l'Église catholique bien avant, dans d'autres cultures, ça résiste encore à admettre que c'est un crime grave. Hein? Puis imaginez en plus l'inceste dans les familles, hein, qui est un secret qui était toléré. Alors, c'est un peu comme le mouvement MeToo, hein, faut le rappeler, même si on a l'impression qu'on l'a incorporé, pour reprendre un terme que vous connaissez bien. On a l'impression que ça va de soi, que l'abus sexuel d'enfants, c'est une horreur. Mais c'est une horreur depuis peu de temps dans nos sociétés. Puis il y a encore des sociétés où c'est toléré, même si c'est pas admis. Vous comprenez?
Ouais.
Alors, les églises catholiques de ces sociétés-là sont pas à l'avant-garde. C'est ça qui est terrible.
Je retiens ce que Solange disait tout à l'heure, Alain Pronkin, c'est faudrait pas refaire le même genre de pouvoir avec des femmes prêtres qu'avec des hommes prêtres. Développer.
C'est le cléricalisme,
Isabelle. J'aime beaucoup ça.
Les théologiens, depuis les années 70, ma faculté à l'Université de Montréal, hein, qui a été honnie par le Grand Séminaire de Montréal hein, jusqu'à aujourd'hui, là, pour nous, ça allait de soi qu'il fallait repenser les relations structurelles dans l'Église catholique, avoir un partage des ministères, pas seulement... pas reproduire la prêtrise comme elle était, mais tu sais, des ministères de la parole, y aller pas seulement en fonction de sacramentaliser une vocation, mais aussi en fonction des compétences. Par exemple, souvent, des femmes seraient beaucoup plus compétentes pour faire des homélies, pour faire des commentaires de la parole. Elles n'ont pas le droit. Ça doit être soit un diacre, soit un prêtre. Hein, voyez-vous, c'est absurde si elle est meilleure, hein, si elle a étudié de la théologie. Et c'est pour ça qu'il faut défendre plus que jamais la théologie dans les universités publiques, pour qu'elle demeure indépendante, critique et interdisciplinaire.
Mais quand on écoute ça, là, je vous écoute, là, de ce que les femmes n'ont pas le droit de faire dans l'Église catholique aujourd'hui.
C'est...
Je veux dire, on touche pas à terre. Là. Ça se peut pas. Là. Ça se peut pas.
Oui, mais
au Québec.
Juste pour dresser.
Oui, au Québec, en plus.
Et juste pour dresser un portrait des communautés de religieuses, il y en a de moins en moins. Les religieuses.
On a vu les
Ursulines,
plus... là, qui.
On ferme. Mm-hmm. Il y avait environ, sur la planète Terre, 1 million de religieuses au début des années 60. Là, c'est tombé peut-être autour de 600 000. Bientôt, là, on regarde au Québec, il n'y aura plus de religieuses. Ils vont se retrouver où, les femmes? Déjà, ils vont dire, bon, on va avoir des hommes prêtres. Ils sont de plus en plus âgés. Est-ce qu'il va y avoir des femmes juste au niveau des religieuses? Il y en aura presque plus.
Et pourquoi il n'y en a plus? Les femmes ont moins la vocation, d'après toi?
La vocation...
Elles sont juste tannées d'être la faire-valoir ou la servitante, la servante.
Ça, on a vu ça à Rome. Ouais. Les femmes qui ont dit... Ça n'a pas de sens. On est vraiment les servantes et on est plus que les servantes. Fait que tu as des communautés religieuses qui se sont un peu objectées à la position de Rome en disant quoi? On fait quoi, là, nous autres? On fait juste faire du nettoyage.
Ouais.
Donc, ça, on l'a. Mais les religieuses, et c'est un phénomène mondial, il y en a de moins en moins.
Mais...
Aux États-Unis, c'est là. Mais ces femmes-là qui sont. Bon, aux États-Unis, tu avais des femmes religieuses qui disaient, écoute, on va s'occuper des femmes qui subissent un avortement. On n'est pas pour l'avortement parce que religieusement, on n'est pas vraiment pour, mais on va défendre ces femmes-là. Tous ces droits-là, il y a des femmes qui l'ont pris au niveau de l'éducation, au niveau des problèmes sociaux graves. Et après ça, on avait des cardinaux aux États-Unis qui ont dit non, il faut que vous rentriez dans le rang, il faut défendre la position de Rome. Mais on perd de plus en plus de religieuses.
Mais moi, je pense, Alain, aussi, c'est un peu comme le cléricalisme. La manière de voir la vocation doit changer.
Aussi.
Il va y avoir un synode au mois d'octobre à Rome sur les jeunes, la foi et les vocations. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de vocations dans l'Église catholique, mais c'est des gens mariés. C'est des femmes comme vous et moi. C'est des femmes qui ont des enfants, c'est des hommes qui ont des enfants, mais ils sont subalternes. Hein? On le sait qu'ils jouent des rôles fondamentaux, hein, cruciaux. C'est souvent eux, actuellement, qui sont les grandes ressources dans les paroisses, auprès des jeunes.
Ben, c'est
des
travailleurs communautaires, finalement, que vous décrivez, non?
Oui, mais dans l'Église catholique
qui
elle-même...
Qui sont impliqués dans la...
Oui,
c'est ça, des bénévoles.
Qui ont étudié de la théologie, mais leur vocation n'a pas la même valeur que les religieux, religieuses, prêtres. Ouais. C'est ça qu'il faut repenser. Pas ça prend des vocations religieuses aussi, ou sacerdotales, mais il faut les repenser. Il faut repenser aussi la vocation à la chasteté qu'on a trop généralisée depuis le 11e siècle. Hein? Il faut repenser cela, puis toute la théologie est là. Tout le dispositif est écrit. Mais qui va gagner la bataille dans ce débat, le pic du débat sur sexualité et religion?
C'est-tu
les conservateurs
juste la chasteté,
ou les libertés?
C'est fascinant.
Oui,
hein? L'histoire de la chasteté, pouvez-vous me dire d'où ça vient, ça? Parce que sincèrement, à la base, se faire du bien, ça ne peut pas faire de mal à Dieu. Là.
Juste pour donc, préciser...
D'où c'est parti? Ouais. Qui a décidé qu'il fallait être chaste?
C'est on sent, parce que cela, je fais référence à on sent, pour le bénéfice de nos auditeurs, les
quand
prêtres
c'est
étaient
parti,
mariés,
cette affaire-là?
Les prêtres étaient mariés jusqu'en... On sent où là, on a fait un concile. Et là, on a dit, maintenant, à partir d'aujourd'hui, les prêtres, les religieux, doivent faire un vœu d'obéissance et de chasteté.
Pourquoi?
Il y en a qui parlent d'une théorie économique en disant, bon, ben si on contrôle notre clergé, à ce moment-là, les successions, les actifs, les avoirs vont faire partie de l'Église, ne seront pas transmis à l'extérieur aux familles. Il y en a qui ont dit que c'est ça. D'autres qui ont dit, non, il faut arriver à une pureté, il faut arriver... une certaine sacralité. Donc, nous, on fait un vœu d'abstinence.
Non, mais attention, la chasteté, c'est universel. Ça a même été prêché par des philosophes. Pour une vocation scientifique, philosophique, mystique, dans toutes les religions.
Perds pas ton temps à avoir des relations sexuelles,
Non, c'était pas juste ça. C'était... Et ça se voit encore aujourd'hui. Il y a encore des gens qui veulent pas se marier puis qui ont peu de vie sexuelle. Tu sais, on en fait une affaire obligatoire, mais il y a des gens qui canalisent autrement leur énergie. Puis la mystique a été une voie universelle pour cela. Le problème, c'est pas que ça existe.
Ouais.
Le problème, c'est que ça soit aussi généralisé à autant de personnes.
Le problème, c'est que ça soit une obligation.
Pas cette vocation.
Que pas une grande vie sexuelle, c'est tes affaires, tu sais, tout le monde y voit avec son feeling, mais de là à en faire une obligation, à dire
pour
que
un grand
c'est,
nombre
oui,
de gens.
C'est là où ça marche plus.
Voilà.
On le retrouve aussi un peu dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, il y a des communautés de nonnes et tu as des communautés d'hommes et des hommes qui font le vœu de chasteté.
Ah ben oui, les moines bouddhistes.
Permanents ou temporaires.
Mais,
oui, mais en même temps, il y a combien de moines qui deviennent... Combien de gens vont devenir moines ou monesses ben après, voilà. Après la vie, après avoir eu des enfants, après avoir travaillé?
Ça aussi, c'est un nouveau type de vocation
tardive aussi.
Ça, c'est un nouveau type de vocation intéressant.
Oui, oui. Bon, le temps file. On parle des femmes prêtres dans l'Église catholique. Est-ce que vous pensez que ça changerait quelque chose? Est-ce que vous pensez qu'on est rendu là? Êtes-vous ouvert à ça? Est-ce que l'Église catholique devrait, franchement, s'ouvrir à ça? 514-790-9850 et sans frais pour nous joindre partout dans le grand diocèse du Québec. 1-866-790-9850. On vous écoute après. A-t-on besoin de femmes prêtres dans l'Église catholique selon notre Marc Ouellet, le cardinal? Ça serait peut-être une bonne façon de...
Il dit de femmes enseignantes.
De femmes enseignantes, oui. Lui, c'est ça. Je vais trop loin pour l'Église.
Trop
Mon
beau,
Dieu, je vais trop vite.
Ça serait trop...
Lui dit de femmes dans la formation des prêtres.
Oui.
Il dit... mais moi, ce qui me fait sauter, c'est surtout la raison qu'il l'évoque pour ça. Il dit comme ça, peut-être qu'on aurait moins de problèmes de pédophilie. On a avec nous Pascal. Bonjour, Pascal. Comment vous voyez ça?
Oui, bonjour. Ben, écoutez, moi, c'est sûr que je suis pour ça à 100%. Les femmes qui forment des prêtres, mais pas seulement ça, des femmes qui doivent être prêtres, je crois que ça aurait dû toujours être comme ça. Est-ce que ça va régler le problème de la pédophilie? Non, parce que c'est malheureusement un fléau qui dure depuis la nuit des temps et c'est pas en nommant des femmes prêtres ou des femmes qui vont former des prêtres que je pense qu'on va abolir ce fléau-là, là, malheureusement.
Est-ce que vous pensez que le fait de... Après ça, on ouvre, on peut dire, bon, plus de femmes prêtres, puis toute la notion, on parlait de chasteté, si on laissait, en demandant, si on avait des femmes prêtres, sans doute que faudrait s'ouvrir à des femmes mariées, des femmes... En fait, il va falloir s'ouvrir à quelque chose, parce qu'il n'y a plus de religieuses, nous a dit Alain. Donc, on les prend où? On les prend où, ces femmes prêtres?
Et même des femmes évêques.
Oh, ben si là, on a
des femmes prêtres,
là,
on peut avoir des femmes évêques. Puis cela, j'ai tout à fait d'accord avec moi.
Mais c'est ça, on les prend où, ces femmes-là, Pascal, d'après vous?
Ben, écoutez, il y a déjà beaucoup de femmes qui s'impliquent dans les communautés, dans les paroisses, tout ça. Il y a des agentes de pastorale. Moi-même, j'ai été animatrice pour des jeunes qui se préparent à recevoir leur premier sacrement. Je me dis, pourquoi pas aller chercher ces femmes-là qui ont déjà un intérêt? Bon, il y a des femmes qui sont agentes de pastorale, c'est sûr qu'elles ont eu une formation universitaire pour ça, mais pourquoi pas les intégrer, leur ouvrir la voie aussi à une formation pour devenir prêtre ou diaconesse, comme vous disiez tout à l'heure.
Tout à fait. Vous, ça vous intéresserait?
Ben oui, j'y ai déjà pensé. J'ai toujours clamé haut et fort. C'est une grande injustice, là. Pourquoi les hommes peuvent très bien faire ce travail-là, mais les femmes peuvent le faire très bien aussi. En tout cas, je pense que l'Église est ouverte à tous et je pense que l'homme qui est venu sur Terre il y a 2000 ans n'a jamais dit « Non, je ne veux pas de femme qui va prêcher la bonne parole. »
Non, d'ailleurs, je pense qu'il y a eu, des études. Merci beaucoup, Pascal. Il y a eu des études qui ont été commandées. J'ai ça ici. Après Vatican II, Paul VI a demandé à un comité d'exégètes d'étudier les écritures pour voir s'il y avait quelque chose là-dedans, là. Qui empêchait l'ordination des femmes. Le comité a conclu que non, mais ça n'a pas l'air que le pape a intégré ça. Ça a l'air que... Tu sais, des fois, il n'y a pas juste ici que les rapports restent sur des tablettes au Vatican, à Rome aussi, visiblement. On a Jérôme avec nous. Bonjour, Jérôme.
Bonjour, madame, mes amis. J'ai écouté tout à Bernard Blainville qui peut rentrer qui peut sauter la journée parce que c'est un sujet immense. Merci d'en parler. Écoutez, je vais seconder ce que madame Lefebvre, en passant, merci madame de toutes ces années-là d'éducation, puis de réflexion, puis d'être restée dans l'Église parce que ça n'a pas du tout été facile. C'est pas tellement une question d'amener les femmes, oui, 100 000 à l'heure. L'Église n'est pas monolithique. Il y a des mouvements, il y a des mouvances dans l'Église. Presque tout le monde le demande. Mais c'est une question à savoir quelle sorte de pouvoir elles vont avoir. Mm. Et dans ce sens-là, si c'est pour amener, comme en politique, par exemple, le même genre de politicien, de politicienne femme qu'il y a des hommes, ben là, on va se retrouver avec une institution encore qui va être vraiment, vraiment bancale. Et on n'a pas besoin d'être ça. Et avec tout ce qui est scandale, il y a des tas de gens dont le sentiment religieux est écarté ou il n'est pas entendu ou ben on jette le bébé avec l'eau. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'il y a eu des scandales et moi je suis catholique, je suis diacre et tout ce que vous voudrez, là, moi, je saigne à entendre ça, là, j'ai honte. Mais il faut absolument pas écarter l'idée de l'appel de l'amour. Et cet appel-là inclut nécessairement les femmes, inclut nécessairement tous les exclus là, qui
sont oui.
homosexuels et autres et tout ce que vous voudrez. Et encore une fois, puis c'est pas juste les femmes qui ont été écartées. Pensons à tous ces prêtres, là, Taylor de Chardin, Hans Kung, M. Pumpkin, il faut dire Kung et non pas Kung, et même Breverman et tout ça, tous ces gens-là qui ont osé élever la tête et qu'on a repoussé, il faut changer ça.
Merci beaucoup, Jérôme. Michel, votre opinion sur... des femmes, nous on a poussé un peu plus loin, pas que des femmes qui aideraient à la formation des prêtres, mais carrément des femmes prêtres au Québec. Est-ce qu'on n'est pas rendu là dans l'Église catholique d'après vous, Michel?
Ben, absolument, on est rendu là, vous parlez d'Église unie, je suis membre d'Église unie, ouais. Sans avoir été excommunié de l'Église catholique, et je suis ce qu'on appelle un conservateur social, donc ça va pas ensemble, certains, là, mais j'aurais une heure pour expliquer ça, ce qu'on n'a pas. Ce que je vous dirais, c'est que oui, ça réglerait au niveau de la main-d'œuvre, je vais me permettre de l'appeler ça de même, parce que c'est rien d'autre que ça. L'Église catholique, c'est une institution, donc ça serait de la main-d'œuvre, qualifiée, certes, parce que déjà, elles sont présentes au niveau de la pastorale, même au niveau des religieuses. Il y a des religieuses en Basse-Côte-Nord qui sont carrément des prêtres et ils ont des pouvoirs, entre guillemets, spéciaux. C'est presque rire d'elles quand on dit ça, parce qu'ils font carrément la job de prêtre. Alors, oui, absolument. Il y avait eu un reportage au second regard d'une religieuse sur en Basse-Côte-Nord. Et à l'époque, c'était Mgr Turcotte qui avait parlé de pouvoirs spéciaux, d'une réalité théologique. Et vous auriez dû voir la réponse de la religieuse à cet effet-là. Et puis, à ce que je cherche, ils l'ont pas foutu dehors. Ils savaient très bien qu'elle avait raison. Elle faisait carrément la job d'un prêtre. Ceci dit, ce que je vais amener comme autre point, c'est pas magique non plus, là. Il y a deux points. Premièrement, c'est une institution qui est lourde, l'Église catholique. Elle est mondiale. La réalité de l'Amérique du Nord, c'est une chose. Celle de l'Amérique du Sud, totalement différente.
Ouais.
Ont-ils des problèmes de main-d'œuvre là? Absolument pas. Ont-ils des difficultés à trouver des prêtres en Italie, ailleurs? C'est une autre question. Ailleurs en Asie, où ce qui sont forts en Philippines. Donc, c'est une grosse institution. Donc, ce que nous, on veut en Amérique du Nord, ce qu'on voudrait, ce qu'on souhaiterait, n'est pas nécessairement la réalité qui est désirée ailleurs. Donc, le conservatisme que vous parliez tout à l'heure est peut-être plus présent ailleurs dans l'Église catholique où leur poids est maintenant plus élevé. On les a évangélisés, c'est maintenant eux qui nous évangélisent. Donc, ça, c'est un. Et la deuxième des choses, est-ce que ça réglerait le problème d'assistance? Par exemple, vous, Mme Maréchal, moi, je vais à l'église à chaque dimanche. Est-ce que vous, je ne sais pas si vous allez à l'église chaque dimanche, mais est-ce que vous iriez plus à l'église parce qu'une femme vous prêcherait la bonne nouvelle plutôt qu'un homme?
Ben pas vraiment, non, mais moi, je vois pas ce pied à moi, là. J'ai comme un petit problème avec le concept de Dieu, là, mais je veux dire, il faut pas que ça empêche personne d'y aller, là. Moi, je respecte ça, moi, les gens qui croient.
Vous comprenez mon point. Ouais. Vous comprenez mon point, c'est qu'il faut pas voir ça comme une solution magique. Ceci dit, moi, je suis pour, 100%. Ça réglerait, on aurait probablement des personnes plus sensibles et plus compétentes, à mon avis.
Non, moi, je trouve que la religion, vous avez raison, tout à fait, Michel, je trouve que la religion, à certains moments, en particulier en fin de vie, dans les rituels, je trouve qu'il y a quelque chose là qui n'est pas acheté, justement, comme vous disiez, comme le bébé Claude Dubin, au contraire, et sur l'ouverture qu'on pourrait démontrer ici au Québec, plus qu'ailleurs, je pense que c'est clair, d'ailleurs, et c'est intéressant parce que l'Église unie, je lisais un article fort intéressant où il y a une pasteur qui, depuis 12 ans, j'ai pris ça dans une série qu'a fait Le Devoir cet été sur justement des religieux inspirants, et on parle de l'Église unie, on les appelle les révolutionnaires parce qu'effectivement, Rosa Elena Donoso, elle est pasteur depuis 12 ans, pasteure, à l'Église unie, c'est même la première femme latino-américaine à avoir été ordonnée par l'Église unie du Canada. Et leur église est rue Sainte-Catherine à côté des Faufounes électriques, près du 281. Voyez-vous
ils ordonnent des homosexuels aussi en couple.
C'est ça. Bon, tu sais, il faut. Je pense que l'avenir de l'Église catholique, Alain et Solange, pour terminer là-dessus, passe par une plus grande ouverture à cette réalité-là. Je veux dire, sinon, ils vont continuer de se gargariser les mêmes concepts vieux depuis des millénaires entre vieil homme. C'est ça qui va arriver. Quand on les voit, là,
c'est qu'on est face à un clergé vieillissant. Et dans les questions de la modernité, c'est est-ce que les femmes peuvent prendre leur place dans l'Église? Et tant que tu vas avoir juste des hommes qui vont prendre des décisions, qui vont voter, faut pas anticiper de changement rapidement.
Voilà. Bon, ben c'est intéressant, Fab, passionnant. Merci beaucoup, Alain Pronkin, notre chroniqueur des affaires religieuses, et Solange Lefebvre de l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. Merci beaucoup.
Merci,
on va s'arrêter ici. Je vais vous poser la question. Vous avez entendu ça, la fin des aliments qui sont bourrés de gras trans. Est-ce que vous y croyez, vous? À tout de suite.